on peut essayer, dans le travail qu'on fait, de diminuer un peu les injustices dans le peu qu'on peut apporter, mais il faut surtout être ouvert à apprendre. On a tellement de choses à apprendre dans nos vies, là. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie de faire ça pendant tant d'années.
À partir du Québec, s'engager au Burkina Faso. Ici Mélanie Allé, coordonnatrice en éducation à la citoyenneté mondiale pour le Centre de solidarité internationale Corcovado à Rouyn-Noranda. Bienvenue à Développer autrement, une série de balados en 4 épisodes qui explore et analyse différents aspects et enjeux du développement et de la coopération internationale. Aujourd'hui, je voulais donner la parole à ceux et celles qui, par leur diplomatie et leur empathie, rendent les projets de coopération possibles, c'est-à-dire les chargés de projet. J'ai avec moi deux invités qui vont nous partager leur expérience. Il y a tout d'abord Mme Ginette Caron, qui œuvre en coopération internationale depuis 1977, donc depuis 43 ans. Elle a donc différentes expériences sur le terrain dans plein de pays différents. Depuis 2012, elle et son conjoint, M. Justin Caron, sont les chargés de projet du CSI Corcovado au Burkina Faso. Ils ont beaucoup contribué à la mise en place du partenariat actuel avec la commune d'Ipelsé, une zone rurale située à 40 km environ au sud de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ma deuxième invitée, Mme Sabine Sieni, est chargée de projet pour Solidarité Nord-Sud Bois-Franc de Victoriaville depuis 2019. Elle est diplômée de l'Université de Sherbrooke au baccalauréat en management public avec une spécialisation en développement international et elle a eu la chance d'aller à Doulou, qui est à 80 km à l'ouest de Ouagadougou, au Burkina Faso toujours, tout juste avant le début de la pandémie. Donc, Sabine, Ginette, bonjour.
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 Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc, vous êtes toutes les deux chargées de projet. Qu'est-ce que ça fait au juste un chargé de projet?
Un chargé de projet, qu'est-ce que ça fait? Je pense que le chargé de projet, au départ, c'est une personne qui va être chargée de maintenir un bon déroulement dans un projet donné, puis qui est en charge de la gestion du budget, puis de la préparation, puis je dirais le recrutement des gens qui vont vouloir s'intégrer au projet en question. Je pense qu'avant de commencer un projet, il faut d'abord savoir s'il y a des besoins au bout de la ligne. Mais avant tout, avant de parler, je pense, d'un projet X, il faut d'abord avoir beaucoup d'écoute, puis beaucoup de communication, puis beaucoup d'empathie. Mais avant d'aller dire on va aller faire un projet, nous, dans notre cas, on avait été en lien avec des gens qui étaient allés à IPLC et qui parlaient d'un projet avec un orphelinat. Donc, on nous avait approchés pour devenir chargés de projet, pour amener des groupes, puis pour pouvoir aider si on veut venir en aide à une communauté X, une commune dans laquelle il y a 13 villages. Avant de commencer, Justin et moi, comme on avait fait de la coopération qui était différente un peu, je suis allée sur place pour voir c'était qui ces gens-là, c'était quoi leurs besoins, est-ce qu'il y avait des besoins identifiés par la communauté, parce qu'on n'essaie pas, nous, à décider qu'est-ce qu'on va aller faire là. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient dans la communauté, des personnes ressources, des pivots au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, pour faire un peu le tour. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer ou pour apporter quelque chose au village où on était. Donc, c'est là où j'ai été mis en contact avec des gens fort intéressants dans le milieu. C'est là où j'ai rencontré Dominique, qui était le chargé, ce qu'on appelle le major, au centre de santé, qui était d'ailleurs juste un petit dispensaire. Ensuite, j'étais appelée, je suis allée, j'ai fait le tour de la communauté, dans les écoles, dans les dispensaires. Au début, le projet dans lequel on était intégrés, si on veut, c'était réservé à l'orphelinat. On s'est vite rendu compte que nous, on voulait, travailler en coopération, mais on voulait vraiment faire un travail qui s'adresserait à toute une communauté, pas juste à quelques individus, où on voulait que ça devienne quelque chose qui un projet qui appartiendrait à la communauté d'IPLC. C'est là où on était appelé à prendre le pouls. Puis le pouls, la seule façon de le faire, c'était de se rendre sur place pour évaluer les besoins en rencontrant les personnes concernées. C'est à partir de là où on est revenu, puis c'est beau de vouloir partir un projet, mais il faut savoir si on a les moyens de le faire.
Maintenant, Sabine, toi qui as un vécu différent, en plus tu travailles pour une autre organisation, est-ce que la tâche de chargée de projet est différente pour Solidarité Nord-Sud Bois-Franc?
Dans le fond, Le chargé de projet, comme cela a été dit, consiste vraiment à, ben de, pour ma petite expérience, à vraiment guider le partenaire dans la mise en place concrète du projet. Donc, comment est-ce qu'on le voit, un chargé de projet, c'est celui-là même qui va être là pour pouvoir soutenir le partenaire dans la planification, dans l'organisation des différentes actions, des différentes activités à mettre en place, dans l'organisation, dans la gestion financière aussi. Et pour coordonner tout ça, pour arriver à bout de tout ça, ça prend pour avoir une meilleure gestion des projets, une meilleure écoute, une très bonne écoute. Et comme Ginette le disait, beaucoup d'empathie. Et moi, de ma petite expérience, je vous dirais que ça prend aussi de la patience et de connaître la culture de l'autre, d'apprendre à connaître vraiment la culture de l'autre, de poser beaucoup de questions pour s'imprégner vraiment des différentes cultures, parce que je me suis retrouvée face à une culture que je connaissais pas, et puis l'effet que je voulais faire a été contraire, donc j'ai dû faire un recul et comprendre cette culture-là, comprendre leur vision du projet concrètement pour pouvoir aller dans la même direction. Donc, pour être vraiment un bon chargé de projet, c'est vraiment s'imprégner de cette culture-là et de regarder, d'écouter cette vision-là qu'ils veulent pour leur communauté.
Puis de ne pas avoir peur d'analyser en cours de route ce qui est en train de se passer, si je comprends bien.
Oui, exactement. Ne pas avoir peur d'analyser en cours de route, ne pas avoir peur de faire une pause et puis de se questionner si on a la même vision, si on comprend bien les objectifs de la même manière qu'eux, et essayer de comprendre leur manière de voir les choses pour pouvoir s'adapter vraiment pour aller dans la bonne direction. Donc oui, on peut commencer un projet et puis en cours de chemin s'arrêter et puis se poser des questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que la communication, je communique de la bonne manière? Est-ce que j'intègre tout le monde comme il le faut? Est-ce que je me fais bien comprendre et puis que on a les mêmes perceptions? Et lorsque toute cette base-là est comme vraiment posée, on peut aller plus rapidement dans l'élaboration de la mise en application de ce projet-là.
Dans l'établissement de la relation de confiance, vous avez bien tous les deux fait le tour de comment ça se bâtit, mais c'est quoi le facteur qui a le plus d'influence, selon vous, par rapport à ça?
Ben, au niveau de la relation d'influence, ce que moi je comprends, c'est de montrer au partenaire local de l'autre côté que c'est eux qui tiennent les rênes. On est juste là pour être un support et guider, mais les décisions, c'est eux qui doivent l'appliquer pour leur communauté et que c'est la manière dont ils veulent que ça soit appliqué qui va être intégré et élaboré. Donc, selon moi, ça prend vraiment de laisser place, je dirais beaucoup plus à la communauté locale, parce que c'est elle qui a même de savoir les besoins de sa communauté, de savoir les objectifs qu'elle veut, mais qu'il veut atteindre pour leur communauté. Donc, ça crée encore un sentiment de confiance et puis de facilité pour la gestion et l'élaboration des différents projets, en fait.
Et de ton côté, Ginette?
Tu sais, tantôt, moi, nous autres, on a vécu des choses, des fois, qui n'étaient pas drôles. Tu sais, on arrive, puis on arrive des fois comme des colons. On arrive, puis on avec nos idées, puis on veut changer le monde un peu. Mais là, par expérience, c'est arrivé au début, moi, ça fait quand même 8-9 ans qu'on va au Burkina, sans s'informer trop de la structure politique. Tu vois, ça m'a pris presque un an. Je passais devant le bureau de la préfète, sans même savoir que ça existait, une préfète, qui finalement, c'est le boss, c'est la patronne de tout ce qui est la structure politique du village et de la ville. Après, le préfet, c'est le ministre. Donc, elle est le patron du maire, du conseiller du maire, de tout le monde. Il n'y a rien qui... de la police aussi. Donc, tout ce qui se passe sur son territoire, c'est elle qui finalement a la mainmise sur tout. Ça m'a pris presque un an avant de la rejoindre ou d'avoir de penser qu'il fallait que j'aille la voir. Je ne savais même pas qu'elle existait. Je connaissais le maire, on se présentait à la police, puis on sait que beaucoup, ça peut devenir délicat à un moment donné parce qu'on arrive dans une structure donnée. Donc, quand on arrive avec des projets où il y a des sous avec les gens, c'est normal qu'un peu partout, les gens aimeraient qu'on puisse qu'on puisse leur venir en aide dans tous les villages. Mais les villages donnés, nous, on s'est arrêté à Ipelcé. Puis à partir d'Ipelcé, les gens ont déterminé, comme tu dis, ils ont évalué en parlant aux personnes concernées, c'est eux qui connaissaient leurs besoins, qui connaissaient finalement, qui étaient capables. Les gens sont capables de monter des projets aussi. Ils ont la capacité de tout ça. Nous, on est comme, si tu veux, une courroie de transmission pour apporter des sous, parce que ça prend de l'argent, comme ici, pour faire des projets. Mais moi, ce que je veux dire, c'est au niveau de la structure politique, maintenant, si je partais quelque chose d'autre ailleurs, je commencerais par ça. Je commencerais par aller voir les gens qui, finalement, les gens qui détiennent un certain pouvoir au niveau des communautés, puis c'est comme leur demander la permission d'être là. C'est un peu comme si quelqu'un arrivait ici dans une école puis commençait à faire quelque chose sans en parler à la direction, ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est un problème que j'ai rencontré à un moment donné. Je pensais avoir fait le tour des autorités, mais ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est quelque chose que je ne ferais plus, qu'on ne fait pas. Je parle encore directement, encore comme on se parle. Souvent, je parle à la préfète, madame, je me souviens même plus de son nom, Salimata. On s'appelle, on se prend des nouvelles, puis tout ça, c'est une madame qui fait partie des projets, qu'elle nous encourage, puis il y a quoi que ce soit, elle nous aide à l'acceptabilité sociale des choses. Puis c'est très, très, très important. Parce qu'une fois que les projets sont en marche et que les gens ont déterminé leurs besoins, sont capables de le faire, puis même à un moment donné, il y a une coopérative de femmes qui s'est créée, même si c'était des femmes qui n'avaient pas nécessairement de l'instruction ou quoi que ce soit. Les femmes savent compter, puis savent cultiver, puis savent tout faire ça, savent s'organiser. Donc, ils ont établi leurs règles, et à partir de là, c'était quoi leurs besoins. Donc, je pense que c'est au niveau de la structure politique, c'est très, très, très important. Puis comme tu disais tantôt, c'est possible qu'on doive à un moment donné reculer dans ce qu'on fait. Le projet avance, mais oups, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a certains conflits qui s'est installé, il y a des peu de jalousie entre des personnes, puis ça, il faut savoir reconnaître ça, puis il faut savoir pouvoir aussi négocier dans notre organisation. Je pense que ça fait partie du rôle d'un chargé de projet, de pouvoir prendre le pouls régulièrement, à savoir comment ça avance. Puis c'est pas évident, ça a pris plusieurs voyages, plusieurs années avant d'établir une vraie complicité. Une complicité entre les intervenants des Burkinabés puis nous. Puis maintenant, c'est comme nos frères, on se parle régulièrement, les projets continuent à avancer même si on ne peut pas y aller. C'est ça, je voulais parler surtout de la structure politique parce qu'on en a souffert à un moment donné de ne pas tenir compte de ça assez. Ici, c'est peut-être une fois qu'on a eu l'acceptation, par exemple, d'un directeur d'école, n'importe quoi, je pense qu'on pourrait faire un projet, mais là-bas, il faut vraiment faire le tour de toutes les instances. Pour que tout le monde nous connaisse, puis que ce soit vraiment transparent tout ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de cachette, puis il n'y a pas de personnes qui peuvent être accusées d'avoir profité de notre passage ou quoi que ce soit. Les choses sont claires, tout le monde est au courant de tout au fur et à mesure qu'on avance. Puis c'est ce qui fait que quand on arrive, tout le monde est content de nous voir aussi parce qu'on a une certaine réputation à savoir que les choses se passent, on travaille pour la communauté. Puis une autre chose qui, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est pas mal. Toujours comme ça, les gens qui travaillent, les directeurs d'école, les professeurs, les sages-femmes, les infirmières, tout ça, ce sont des gens qui ont des affectations. Donc, demain matin, le gouvernement peut décider qu'il change de place. Il s'en va dans une autre école, dans un autre dispensaire. Donc, ça fait en sorte que ces gens-là sont aussi étrangers que nous dans certains villages. Ils arrivent d'ailleurs, ils peuvent être appelés à aller. Ils sont souvent toujours, en général, loin de leur famille. Donc, c'est des gens avec qui on travaille vraiment en équipe. C'est des gens qui travaillent pour la communauté. Donc, c'est souvent des personnes qui sont tellement impliquées, qui vont nous aider et qui vont poursuivre aussi dans l'élaboration des projets. En tout cas, c'est très intéressant de travailler avec la même équipe depuis tant d'années. J'arrête de parler, Sabine. Je te laisse aller.
Oui. Dans le fond, une petite chose que je voulais ajouter, c'est que moi, mon expérience a été très différente parce que lorsque je suis arrivée déjà, je suis arrivée comme gestionnaire de projet dans cette équipe-là, le projet, oui, je l'ai travaillé comme vers la fin, mais c'était déjà totalement élaboré et par le coopérant, le partenaire du Burkina, puis par Santaba ici. Donc moi, j'étais la personne nouvelle qui arrivait dans l'équipe et qui était supposée gérer cette équipe-là. Et toute jeune, sans beaucoup d'expérience et tout, ben je prends le lead vraiment carrément sans prendre compte des participants au départ et tout ça. Et puis là, je me bloque à un mur. tout simplement parce que j'ai pas pris le temps de connaître l'autre, j'ai pas pris le temps de connaître justement les instances dont Ginette parlait tantôt, j'ai pas pris le temps de m'imprégner de la communauté. Et ça, ça a été comme une expérience qui m'a fait virer de bord, comme quoi ce qu'on apprend à l'école, des fois, lorsqu'on est sur le terrain, il faut savoir l'ajuster. Et là où j'ai aimé vraiment la dynamique de l'équipe Sans Tabac ici, c'est que on m'a proposé d'aller directement sur le terrain, donc pour rencontrer l'association là-bas, pour qu'ils mettent un visage sur le nom qu'ils entendaient à distance. Et puis cela m'a permis et a permis à la communauté de me faire plus confiance. Donc en leur parlant, en leur disant ce que je venais faire dans ce projet, qui est-ce que j'étais, c'était quoi mon rôle, que je venais juste les accompagner dans ce qu'ils étaient en train de faire, que j'insérais comme en griffe un porte-parole entre l'organisme d'ici puis leur association. Ils ont compris concrètement le rôle que j'avais à jouer dans ce projet-là et ils m'ont fait plus confiance dans le sens que j'étais là pour les aider à mettre vraiment en place ce projet-là et à les guider tout au long du projet. Donc ça, ça a été une belle expérience pour moi. Ça a été une belle expérience pour eux aussi parce que en retour, ils l'ont mentionné à plusieurs reprises qu'ils ont été contents de savoir, ils ont apprécié le fait qu'on soit venu sur le terrain, les rencontrer, leur parler. Même si la pandémie a fait qu'on est loin, au moins ils savent à qui ils ont affaire, ils savent c'est quoi mon objectif, ils savent c'est quoi concrètement mon rôle. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir établir cette confiance-là au début pour un bon déroulement, de pouvoir comprendre les institutions de là-bas, de pouvoir comprendre la manière de fonctionner, de ne pas aller comme si eux, ils n'avaient pas d'idée, comme si eux, ils n'avaient rien mis en place et qu'on est juste là pour leur donner un gâteau déjà tout fait et qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Donc, c'est vraiment mon expérience que je voulais ajouter à ce que vous venez de dire.
Tantôt, tu parlais de culture, c'est important, la culture, s'imprégner de la culture. Tu sais, la relation, moi, je suis une femme comme toi, puis quand tu arrives pour, je me souviens d'un projet qu'on avait fait dans un village donné, où les hommes, c'était une construction d'école, je pense, où il y avait un organisme, il y avait une fondation au Québec qui avait donné pour une construction d'une école. Et j'étais allée rencontrer le chef du village, tu sais, il y a toute la hiérarchie du chef du village, puis tout ce qui va avec. J'allais rencontrer les hommes, parce que c'est eux qu'on rencontre au départ. Et les hommes s'étaient engagés à fournir la terre de termitière pour remplir la structure de béton pour pouvoir faire le plancher. Les femmes s'occupaient de l'eau, de transporter l'eau. Donc, ceci dit, je vais rencontrer le chef du village, tous les hommes du village, les gars s'engagent, c'est beau. Quand je suis partie, les hommes ils ont décidé qu'ils ne se laisseraient pas mener comme ça, là. Ils ont décidé qu'eux autres, ils ne fourniraient rien. À la fin, quand je suis allée à l'inauguration, là, il y avait, quoi, c'était toute la grosse gomme partout. Et je me suis permis d'intervenir en disant aux hommes, vous étiez engagés, puis vous n'avez pas tenu parole. C'est très décevant. Tout est délicat quand on est une femme chargée de projet. Dans un pays africain où les femmes n'ont pas beaucoup de droits de parole jusqu'à maintenant, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien à dire. Au contraire, on fait beaucoup, grâce aux dispensaires, il y a beaucoup de discussions de femmes qui se font par une espèce de travailleuse sociale burkinabé qui va à la rencontre des femmes, à savoir sur c'est quoi les problèmes dans la famille, les problèmes un peu de tout. Et moi, j'aime beaucoup participer à ces rencontres-là, même si ça se fait par en traduction simultanée. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce que les femmes pensent de ce qui se passe dans leur relation de vie, de couple. Puis moi, ça m'apprend beaucoup sur la culture. Puis c'est sûr que quand j'étais jeune, plus jeune, où j'ai travaillé pendant 2 années complètes au Cameroun, où là, j'ai vraiment appris. J'ai rien... Tu sais, quand tu fais de la coopération comme ça, au départ, il faut être prête à recevoir. Parce qu'on, oui, on va donner, mais il faut vraiment être prêt à apprendre. Je pense que c'est vraiment l'université de la vie. Quand tu te mets à partager avec des femmes et des hommes qui ont beaucoup d'expérience dans la vie, je vois des fois des jeunes qui disent « on va aller leur montrer à cultiver ». Moi, ça me fait toujours rire parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui pourrait cultiver cette terre aride comme les femmes burkinabées le font. Elles ont toute l'expertise et le savoir pour faire les choses. C'est souvent les moyens qui manquent. Donc, écoute, C'est pour ça que je voulais rajouter quand tu disais l'importance de s'imprégner de la culture, puis pas juste de regarder ce qui se passe, c'est vraiment de comprendre la dynamique. On peut pas arriver avec nos grands chevaux, là, puis ce qui se passe ici, puis ce qui se passe là-bas, c'est deux mondes complètement différents. Je pense que c'est très, très important, comme tu disais, Sabine, de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas avant de pouvoir intervenir, puis pouvoir dire quelque chose avec nous autres, avec notre pensée d'ici où les hommes, on est l'égal des femmes, là, c'est pas demain la veille non plus. Non plus ici, finalement.
C'est ce qu'on appelle le complexe sauveur blanc.
Ah mon Dieu, la pensée du sauveur blanc, oui. La pensée des gens qui vont aller sauver le monde, qui vont aller changer le monde, qui vont... Ça, là, c'est vraiment... Peut-être que tu penses ça à un moment donné, puis tu te rends vite compte, mais tu peux même pas penser ça. Tu peux pas faire de coopération internationale quand tu penses un peu comme en période électorale où on donne des bonbons à tout le monde. Ce qui m'a beaucoup frappé là-dedans, c'est les gens chez qui on est allé, les gens avec qui on travaille, ce qui les a surpris, puis ce qui les a vraiment, qui les a mis bien heureux, c'est le fait qu'on retourne. On est retourné au Burkina Faso. Pas une fois, pas deux fois, on est retourné pendant plusieurs années. Parce qu'habituellement, les gens arrivent, ils font un petit quelque chose, puis ils s'en vont, puis ils laissent l'eau. Un peu comme quand on était au Cameroun dans le temps, je me souviens, l'ACDI avait apporté de l'aide. Il appelait ça de la coopération internationale. Il avait acheté des moteurs, des gros moteurs à essence pour les pêcheurs sur le bord de la mer. Il avait laissé ça là, mais sans... Aussitôt que les moteurs ont été finis, les moteurs se sont tous ramassés sur le bord de la mer. Puis je me suis dit, est-ce que c'est ça l'aide internationale? J'ai douté un peu. Mais c'est ça, les sauveurs blancs, on n'ira pas sauver l'Afrique. On peut essayer, dans le travail qu'on fait, de diminuer un peu les injustices, un peu. Dans le peu qu'on peut apporter, mais il faut surtout être ouvert à apprendre. On a tellement de choses à apprendre dans nos vies. Là. Moi, en tout cas, ça a changé ma vie de faire ça pendant tant d'années, puis d'avoir encore le goût d'y aller, puis de retourner. Puis quand on sait pour qui on travaille, quand on vient ici, puis qu'on veut aller chercher des sous pour un projet quelconque, peu importe le projet qu'eux ont décidé, tu as vraiment l'impression que tu peux faire une petite différence. Puis tout ce que j'ai appris en allant faire de la coopération, c'est incroyable.
Sabine, toi qui es d'origine africaine, parce que tu viens de la Côte d'Ivoire, même si tu vis au Québec depuis plusieurs années, est-ce que tu sens une différence, peut-être parce que tu es d'origine africaine, ou... Tu sais, est-ce que le danger d'être vue comme une blanche qui a de l'argent, même si t'es pas blanche de peau, existe tout autant pour toi?
C'est drôle à dire, ça... C'est sûr que c'est comme paradoxal. Je dirais pas que j'étais perçue plus du fait que je vis depuis longtemps ici comme le blanc qui a de l'argent et qui vient les sauver ou comme on le disait tantôt. Mais là où moi j'ai été un peu confrontée à cette situation-là, mais d'une autre manière dans le fond, c'est du fait que je suis une femme et une femme qui allait diriger un projet, qui allait dire en quelque sorte qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième. Ça, on le fait, ça, on le fait pas. Au début, ça a été très difficile de ce côté-là. Donc, d'où mon explication tantôt de ne pas négliger le volet culture, de ne pas négliger le volet connaissance des institutions, du partenaire. Par moment, oui, on peut sentir un peu qu'on est considéré un peu comme le blanc qui envoie de l'argent du fait que je vis ici depuis quand même longtemps. Mais ce côté-là, je dirais que ça passait quand même parce que j'étais capable de montrer que oui, certes, je vis ici depuis longtemps, mais on vient du même continent. On est des pays voisins et puis que mon objectif, c'est de pouvoir aider dans le projet, dans ce beau projet-là qu'ils entreprennent dans le fond. Donc, de pouvoir poser ma pierre de telle sorte qu'ils arrivent à profiter de ce projet-là. Donc, le volet que j'ai trouvé difficile, c'est vraiment que je sois pas au début acceptée parce que j'étais tout simplement une femme. Et ça, c'est une réalité aussi qui est dans la culture burkinabé que moi, au début, je n'avais pas pris conscience de cela ou que je me disais, oh non, ils le savent déjà, donc ça va fonctionner. J'ai vraiment comme négligé ce côté-là juste à ce que je me rende compte que non, il fallait vraiment stopper, reconsidérer le ressenti, la perception et puis les rassurer que ce n'est pas une direction, ce n'est pas des commandes que je fais, mais j'aimerais plus que ça soit une collaboration et que j'apporte juste mon petit grain de sel pour pouvoir amener à terme ce projet-là. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai plus perçu. C'est le ressenti que j'ai eu au début lorsque j'ai pris ce projet-là en main.
Donc, c'est un peu, si je résume bien, en minimisant la portée de ton autorité, puis en leur laissant prendre conscience qu'ils avaient une part importante à jouer, que tu as réussi à vaincre cette barrière-là, cette perception-là qu'ils avaient de ton rôle.
Effectivement. J'ai dû minimiser mon rôle. J'ai dû redéfinir mon rôle aussi. Et j'ai dû leur montrer que le dernier mot leur revenait en quelque sorte, que je n'étais pas là pour donner des ordres. Donc, il fallait vraiment aller chercher cette confiance-là de personne à personne, d'individu à individu, non d'institution vers l'association de l'autre côté. Et il a fallu vraiment qu'on communique, qu'on se parle, que je pose des questions et que moi j'essaie de répondre, de montrer mon côté empathique, mon but de pouvoir vraiment aider dans ce projet-là. Donc il fallait vraiment que je minimise toutes les actions que j'avais à faire, que j'essaie de les simplifier le plus possible, que ça paraisse pas comme des ordres, que ça paraisse pas comme des directives, mais plus que ça paraisse comme de la collaboration, que ça paraisse comme des idées que j'apporte à votre idée qui est déjà là. Et c'est ce qui fait la force aussi de la coopération, parce que la coopération, si on vient en tant que les personnes qui ont la science infuse, les personnes qui ont certes la capacité financière et qui doivent avoir le dernier mot, ces projets-là ne pourront pas non seulement arriver à bout, à terme, je dirais plus, mais ça ne pourra pas avoir de pérennité. Or, le but d'une coopération, c'est quand même, à un moment donné, le partenaire arrive à être autonome et à se passer de notre aide, en fait. Donc, c'est dans cette optique-là que je leur ai expliqué mon bien fondé. Je leur ai expliqué que mon aide, ça va vous aider peut-être dans les autres années à avoir des projets plus gros, de pouvoir vous aider à vous développer, de pouvoir vous aider à être autonome. Je viens juste vous montrer un peu ce que j'ai appris à l'école. Vous allez en prendre, vous allez en laisser. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Comme je vous le dis, vous allez l'adapter à votre manière, mais le peu que je connais, je vais vous l'apporter puis vous en ferez ce que vous voulez. Donc, apporter de cette manière-là, j'ai senti que plus on me voyait autrement, on me voyait maintenant comme un partenaire, comme quelqu'un qui était venu pour qu'on marche ensemble, main dans la main, dans la même direction, et non celui qui va te tirer forcément vers l'avant. Donc, je trouve que cette manière de l'apporter...
C'est comme toute la différence entre un dirigeant et un leader, dans le fond. À ce que je comprends, un bon chargé de projet, il se doit d'être un leader, il se doit d'être capable de laisser aller du pouvoir, si on veut, pour mettre les autres en lumière, puis leur permettre de s'approprier le projet eux-mêmes. C'est bien ça?
Exactement. C'est comme ça qu'il faut le voir, en fait, parce qu'un chargé de projet, ça doit être la personne qui est capable de s'adapter, là. Le partenaire a besoin d'être davantage guidé, davantage de personnes qui prennent la place. Oui, on va s'adapter. Mais le chargé de projet, pour moi, là, ça doit être quelqu'un qui est capable de s'adapter et puis qui est capable d'être un leader sans pour autant être autoritaire. Parce qu'il faut garder en tête qu'on est là pour aider, on est en coopération et non, on vient sauver. On n'est pas les personnes qui viennent sauver de mort certaines, là, non. On est là pour les aider à avoir une vie meilleure parce que la difficulté est là, la difficulté climatique, la difficulté politique est là et ils n'ont pas le contrôle de pouvoir modifier certaines choses. Mais cet apport-là vient comme un levier pour pouvoir les aider à enclencher ces différents défis-là, en fait.
Est-ce que vous avez un mot de la fin? Une dernière expérience peut-être qui vous tient à cœur et que vous avez le goût de partager?
Ben moi, je vais partager... quelque chose, c'est que ça a été très spécial à la gestion de projet pour Santaba et la FPBS via Solidarité Nord-Sud, dans la mesure où, après ma visite au Burkina, ça a été tout de suite après l'année où on a eu la pandémie. Donc, il a fallu vraiment repenser le projet de telle sorte qu'on puisse gérer ce projet-là à distance, et ça a été un gros défi pour toute l'équipe parce qu'il fallait s'arranger pour mener à bien ce projet-là sans pouvoir se voir ni aller sur le terrain. Mais comme on le disait plus tôt, tout ça a pu se faire de par la confiance qu'on avait déjà installée à travers la visite avant pandémie. Donc la confiance était déjà installée, donc travailler à distance, oui, c'était un défi, mais c'était beaucoup plus facile parce qu'on savait qui faisait quoi, qu'est-ce qui était le rôle de chacun, c'était quoi nos buts, et on voyait qu'on avait les mêmes buts, les mêmes objectifs, donc l'atteinte la réalisation de ce projet-là. En période de pandémie, gérer à distance, ça prenait vraiment de la rigueur, ça prenait vraiment de la coordination, ça prenait vraiment de la planification rigoureuse, ça prenait de pouvoir se parler à travers un canal meilleur. Donc, on a dû améliorer notre communication, installer l'Internet pour qu'on ait un meilleur débit pour pouvoir vraiment se parler comme on se parle ici actuellement. Et tout ça, c'était tout un défi, mais j'ai vraiment appris beaucoup parce que de l'école à sur le terrain, j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait vraiment gérer un projet et arriver à ce qu'on est aujourd'hui là, tout en restant vraiment à des milliers de kilomètres. Et ça, ça a été possible de par leur volonté là-bas, d'arriver à terme de ce projet-là. On a toujours communiqué, on a toujours reçu au fur et à mesure du développement du projet, des preuves, des photos, des vidéos en train de travailler, des résultats par photo, par vidéo. Tout ça, ça nous a permis vraiment de nous sentir vraiment dans une union parfaite là, dans l'atteinte de ce projet-là. Et moi, pour moi personnellement, là, en tant que débutante, gestionnaire de projet, c'était une très belle expérience que je suis prête à recommencer les années suivantes, là.
Je suis bien d'accord avec toi. Ça a été un peu la même chose de notre côté. Tout s'est fait à distance, mais comme c'était des gens qui, moi, je suis restante dans l'équipe. Ça fait un peu plus d'un an que je suis là. Mais Ginette et Justin sont là depuis longtemps. Puis nos partenaires terrain là-bas sont les mêmes depuis plusieurs années aussi. Donc, la transition en temps de pandémie, ça s'est fait très bien selon moi. Qu'est-ce que t'en penses, Ginette, toi?
Ah, écoute, c'était extraordinaire. Faut dire que, comme disait Sabine tantôt, tout a continué comme si s'il n'y avait rien. Là. C'est sûr que la distance, moi, tout ce que je trouve ça plate de ne pas pouvoir y aller parce que moi, c'est comme si j'arrivais chez nous quand j'arrive là. Mais en dehors de ça, là, tout a continué parce que c'est des gens qui sont vraiment dévoués. C'est des gens qui travaillent pour l'amélioration de la communauté. Et le fait qu'ils soient si impliqués, nous autres, on a l'impression qu'on peut pas arrêter non plus. Là. Les partenaires que nous avons la chance d'avoir là-bas, les Burkinabés, ce sont eux qui ont rédigé les projets. Ils ont les formulaires, ils sont capables de... Puis Mélanie vient de vivre quelque chose aussi avec nos partenaires là-bas. C'est des gens qui sont assez articulés et assez organisés pour pouvoir eux-mêmes définir des... C'est sûr que des fois, on a besoin d'aide pour rédiger dans les mots qu'il faut au niveau des bailleurs de fonds. On va souvent... faire une tournure de phrase que nos bailleurs de fonds veulent voir, sauf que c'est des gens qui connaissent tellement leurs besoins, qui sont capables de rédiger eux-mêmes les projets. Puis comme tu dis, nous, on est vraiment là pour écouter puis pour voir aussi avec eux autres la façon de faire pour pouvoir arriver à réaliser le projet en question, peu importe quel qu'il est. Là. Ça prend des sous souvent, puis s'il faut aller chercher de l'argent quelque part, ça va venir de chez nous. Mais c'est très intéressant, Sabine, de t'entendre dans 15 ans d'ici. J'aimerais ça t'entendre encore pour voir où est-ce que tu vas en être rendue. J'espère te rencontrer un jour.
Moi aussi, j'espère te rencontrer là, très, très vite même.
Puis merci beaucoup à toutes les deux pour avoir osé participer à cette expérience de balado. Je pense que c'était vraiment enrichissant et intéressant de vous entendre partager vos expériences et votre vécu en tant que chargé de projet. Vous venez d'entendre le dernier épisode du balado Développer autrement, conçu et produit par le Centre de solidarité internationale Corcovado à Rouyn-Noranda et par Solidarité Nord-Sud-Bois-Franc de Victoriaville dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, édition 2021. Ces journées sont organisées par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et grâce à la participation financière du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Dans cet épisode, vous avez pu entendre nos chargés de projet pour le Burkina Faso, soit Ginette Caron et Sabine Sieni, qui nous ont partagé comment on peut réussir à bâtir une bonne relation de confiance et un véritable partenariat avec des communautés du Sud. Merci de votre écoute et à la prochaine!